Dimanche soir, je les ai vus à la télévision. Ils formaient une chaîne humaine aux abords du parc Maximilien. Avec ces fous et ces inconnus, Toby Nathan n'avait-il pas raison ? Mesdames et messieurs, bonsoir. Don Quichotte est un fou légendaire. Complètement décalé par rapport à son époque, il se prend pour un chevalier et entreprend une quête pour retrouver la princesse de ses rêves. Il réagit toujours de manière insensée, comme en bataillant contre des moulins qu'il confond avec des géants envoyés par de terribles magiciens. Sa folie fait de ce personnage une figure majeure de la littérature espagnole. Mais si l'on voyait, au-delà de cette épopée chevaleresque, une métaphore subtile, un adage encore valable de nos jours. Don Quichotte est un idéaliste et agit envers et contre tout pour défendre ses valeurs. Et si sa folie à lui était justement d'avoir des idéaux et pour les accomplir, de transgresser les codes établis par son temps. Ce soir, je vais parler de personnes qui, comme Don Quichotte, mais à leur façon, à leur manière et à leur époque, ont paru se battre contre des moulins à vent, les fous, les anonymes, et tous ceux dont la parole ou l'acte, apparemment absurde, s'est révélé par la suite changer notre vision du monde et porter les réponses à des questions encore jamais posées. Dans les grandes révolutions menées par des fous, la première image qui vient à l'esprit est souvent celle du chercheur, un peu siphonné, qui recrée les atomes ou l'univers enfermé dans son laboratoire. Le plus emblématique de ces savants est sans doute Albert Einstein, mais d'autres scientifiques, bien moins connus mais tout aussi déjantés, ont eux aussi eu leur quart d'heure de folie, et bien plus tard, de gloire. Un des contemporains d'Einstein fut par exemple Fritz Wicki. Cet astronome suisse hors norme était particulièrement connu dans sa communauté pour ses idées farfelues. Il proposa par exemple de modifier l'orbite des planètes situées très loin du Soleil pour les réchauffer et les rendre habitables. Sur son temps libre, il demandait aussi régulièrement à ses assistants de tirer au fusil dans les nuages pour chasser les turbulences de l'air et mieux observer les étoiles. Mais le coup de génie de Zwicky ne se trouve pas là. En 1933, il invente le concept de matière noire, une matière invisible à l'œil nu, de nature inconnue, dont la présence dans l'univers expliquerait la masse anormalement grande des galaxies. Évidemment, à son époque, personne ne le prit au sérieux, et il fallut attendre 40 ans pour qu'on reconsidère sa théorie. Actuellement, la plupart des astrophysiciens s'accordent à dire que Fred Zwicky, et son concept surtout de matière noire, a véritablement révolutionné la société. Parce que la matière noire est l'une des principales inconnues manquantes à l'équation de notre univers. Et surtout parce que comprendre avec précision la composition de la matière et des énergies qui nous entourent pourrait nous ouvrir la porte sur de nouveaux savoirs, sur le Big Bang, sur l'expansion de l'univers et sur d'autres univers que le nôtre, qui nous attendent, peut-être, bien au-delà de notre compréhension actuelle. Bien entendu, les fous et les anonymes ne se limitent pas à la sphère scientifique. Dans tous les domaines de la société, des personnes ont accompli des actes de bravoure, de folie, d'inconscience peut-être, mais paradoxalement, toujours avec une certaine clairvoyance. En 1989, à Pékin, un homme inconnu surnommé l'homme au tank défie une colonne de chars sur la place Tiananmen, suite à une violente répression du mouvement démocratique étudiant. La photo est restée, celle d'un symbole, fêtu de paille, seulement armé de ses sacs plastiques, face à l'oppresseur militaire, pour défendre la liberté, la démocratie et le droit à la dignité. Dans d'autres circonstances, un autre pays, Rosa Parks, une Afro-Américaine, devint dans les années 60 l'emblème de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, en refusant de céder sa place dans le bus à un passager blanc. Sophie Scholl, aussi, jeune résistante sous le régime nazi, distribue avec son frère des milliers de tracts de contestation pour soulever la population allemande, par le biais d'un réseau qu'ils nommèrent la Rose Blanche. Par ailleurs, de nos jours, Zineb El Razoui, militante marocaine et ancienne journaliste de Charlie Hebdo, lutte contre l'extrémisme religieux dans l'islam et écrit des articles sur les droits de l'homme et les libertés individuelles. Pour dénoncer l'influence de l'islamisme sur le gouvernement marocain et critiquer une loi punissant par la prison la rupture du ramadan, elle tenta en 2009 d'organiser un pique-nique géant à Mohammedia, en plein mois de jeûne. Ces actions peuvent paraître futiles ou immodérées, parce qu'elles ne détraquent pas d'un claquement de doigts les actions et les rouages défectueux de notre monde, et parce qu'elles provoquent, à leur époque, la polémique. Mais dans un contexte dictatorial ou discriminatoire, la plus petite étincelle de révolte ou de dissidence a son importance. Elle peut, a priori, s'apparenter à de la folie pure, mais s'inscrire par la suite dans une véritable révolution sociale. Ces personnes ont parfois dû payer très cher leur insurrection. Si l'homme au tank a disparu sans laisser de traces, Rosa Parks s'est retrouvée en prison. Sophie Scholl a été guillotinée avec son frère pour propagande ennemie et haute trahison. Et Zineb El Razoui, la journaliste, doit continuellement vivre avec sa famille sous escorte policière. Peut-être est-ce là le véritable sillon de leur folie, ou bien, plutôt, la façon dont la société accueille leurs transgressions. N'est-ce pas là le nœud du problème ? Inventer un concept scientifique, distribuer des tracts, s'asseoir dans un bus ou organiser un pique-nique n'a jamais été en soi un acte remarquable ou fantasque. Ce sont les conditions dans lesquelles ces différents événements se sont produits qui leur ont valu cette étiquette. Ainsi, depuis l'aube de la société, les hommes se fixent des normes, un cadre de convention qui leur permet de juger ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. En sont donc exclues toutes les potentielles évolutions et les idées alternatives au système existant, surtout quand ces idées émanent de personnes dont l'autorité n'est pas prouvée. Mais ces normes ne sont-elles pas restrictives ? Les exemples l'attestent. Les plus décalés, les plus quelconques, ont parfois, dans leur courage, leur conscience ou leur inconséquence, une lueur de génie qu'il faut pouvoir prendre en compte. Pour conclure, j'aimerais aller encore un peu plus loin. Les fous et les inconnus ne sont pas seulement les héros de l'histoire, ceux qui tapissent les manuels scolaires à titre posthume. Ils se trouvent aussi dans notre quotidien. N'est-ce pas déjà une véritable révolution en soi de se défaire des normes pour mener son propre train de vie ? Il me semble que des gens simples, comme les membres du mouvement d'action paysanne en Wallonie, qui s'opposent à Monsanto en s'échangeant leurs propres graines, ou bien comme les familles du quartier de la Baraque à Louvain-la-Neuve, qui ont troqué leur loyer hors de prix pour des habitats alternatifs et communautaires, ces gens ont une vision intéressante, voire cruciale à saisir. Rien que par l'anormalité de leur existence, ils dénoncent déjà les dysfonctionnements et les contradictions de notre système. Je pense donc qu'il faut nous ouvrir aux fous dissidents, aux idéalistes, aux chevaliers rêveurs modernes. Peu importe qu'ils soient dans la divergence quotidienne ou bien dans l'héroïsme conventionnel. Et si je souhaitais partager leurs paroles ce soir, c'est parce que je pense fermement qu'elles apportent une part de réponse à ce que demain devrait être. Un germe de folie, peut-être. Merci.
Depuis quelques mois, on parle beaucoup d'égalité entre l'homme et la femme. Et on cherche des mesures pour effacer toutes ces traces d'inégalité. Parmi celles-ci, on a inventé l'écriture inclusive. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais je pense déjà que le débat sur l'homme et la femme et leur égalité n'est pas un débat qui date d'hier, ni même d'avant-hier. Depuis, disons, toutes les révolutions avaient une part d'égalité et de féminisme. Peut-être cette histoire d'écriture inclusive est un nouveau pas, un nouveau pan du féminisme. Et je pense en ce sens qu'elle est toujours importante, malgré des affaires comme le radicalisme dans le féminisme qu'on a pu trouver ces derniers temps. En tout cas, était-ce l'avis de tribunes comme Catherine Deneuve. Pour moi, le féminisme a toujours son intérêt dans la société. Et l'écriture inclusive en est une. En est un. Merci.